Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu t'as dit apéro ?
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et salut à tous, bienvenue dans cette 97e émission de l'Instant Sport. On se rapproche de la 100e, attention.
Grosse surprise à la 100e.
Alors, il veut tout prix que Lyon repasse devant l'OM au classement. Et pour ça, il est même prêt à marquer des points au classement des pronostics. Bravo, monsieur Laurent Julien.
Oui, bravo, bonjour à tout le monde.
Ouais, c'est beau, hein, ce que tu viens de faire, de rattraper Patrick.
Presque. Ah oui, je rattraperai pour la Ligue des Champions, je pense.
D'accord, tu mises tout sur le 14 février. Pour remonter.
Voilà, garde mes infos.
Et ouais, le champion qui était pas loin avec un pronostic d'un but partout hier, il avait d'ailleurs marqué un point jusqu'à cette dernière seconde et ce but de Depay, je sais pas comment on dit.
Ouais, Depay.
Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous. C'est totalement injuste parce que Turpin aurait dû siffler au moment où il le fallait et donc il n'y aurait pas eu ce 2-1 et donc ça me faisait un point de plus. Au pronostic, et surtout, ça faisait 2 points de moins à Lyon.
Oui, enfin, si Turpin avait sifflé au moment où il fallait, il aurait sifflé un penalty et sorti le gardien de Lyon, donc t'aurais pas gagné, Patrick.
Si Cavani aurait mis à côté, parce qu'il n'y a pas Neymar, donc il aurait pas pu se chamailler.
C'est possible, ouais.
Ouais, c'est bien, parce que je parlais avec Auré avant que cette émission commence, il m'a dit très bon arbitrage, donc apparemment vous n'êtes pas tout à fait d'accord, on reviendra dessus. Moi, j'ai voulu suivre pour marquer un point, mais quelle erreur, Julien Gall, salut.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Ben, ouais.
Il n'y a plus que toi qui fais ça. Hein.
3-1 pour Paris, j'y ai cru. Là, je me suis dit,
il n'y avait pas Neymar. Non, mais c'est l'avantage de faire les pronos du lundi pour le dimanche. Quoi. C'est que les mecs qui sont absents, tu ne sais pas ce qui va se passer.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, non, mais
pas
c'est
très juste
bidon. Quoi.
Ouais,
moi aussi, je peux rebondir sur Lopez. Hein. Peut-être que si en rouge, il y a 3-1 pour Paris. Hein. Allez.
Ouais, c'est vrai.
Allons-y comme ça.
Et Mbappé pas blessé qui reste. Voilà.
C'est pas grave, on est bien là avec nos 0 points.
On est bien, on est troisième. On est troisième
quand même. On est toujours troisième.
Ça va, parce qu'il y en a un qui reste sur sa lancée. Hein, il continue comme il a commencé. Salut Aurélien Lacaze.
Bonjour à tous.
On te remercie de rester à notre niveau avec 0 points.
Mais exactement, je suis solidaire avec vous parce que je me dis quand même, faudrait pas vous laisser tout seul à la dernière place.
Ouais.
Non, mais il y a un choc de titan quand même entre Laurent et moi quand même. Ça s'annonce énorme. Hein.
Les temps changent.
C'est un vrai championnat. Hein. Ouais. On se bat pour Ligue des Champions, pour le maintien. Hein.
D'ailleurs, moi aussi, j'ai cru. Hein, j'avais dit 2-1 pour Paris là. L'occasion de Meunier à la 88e, là où il fait une frappe de Grive, vraiment où ça part en
un
corner.
Un pied de lapin.
C'est ça, ouais. J'ai cru, et puis non, c'est pas passé.
Et ouais. On va voir, on va faire 2 pronostics pour la semaine prochaine pour peut-être passer devant Patrick ou au moins se recoller à Laurent. On va voir ça. Allez, on commence par le match capital de ce week-end. C'était en volée et le MVL a perdu contre Fréjus au tie-break 3-7 à 2. 26-24, 20-25, 18-25, 25-13, 19-17. Alors, motif d'espoir de cette journée, ce point pris à Fréjus et surtout la surprise avec la défaite de Martigues au CNVB. Alors au classement, ça donne Martigues premier 33 points, et après deuxième Fréjus 31 points, troisième Mende 27 points et quatrième CNVB 16 points. Alors pour les playoffs, ça donne quoi? Ça donne Auré, toi tu le sais. Les playoffs, ça donnerait quoi? Parce que là, j'ai des chiffres qui sont peut-être pas bons, Patrick.
Ouais, alors tu as IAC qui est pour le moment en tête des playoffs avec 13 points. Deuxième, tu as Fréjus qui est à 10 points. Après, tu as Martigues qui est troisième avec 9 points. Et quatrième, Mende avec 8 points. Et bon, le problème, c'est que.
Il n'y a pas une autre équipe de l'autre poule, là?
Si, si, après.
Oui, mais
après,
elle n'a pas coché la montée.
Tu me l'as dit.
Après, tu as cinquième, je crois que c'est
Amiens.
Sixième, tu as Épinal. Amiens et SNVB, ils sont septième et huitième. Donc, tu as Aluen.
Aluen, 7 points.
Aluen est juste derrière Mende. Après, tu as Épinal. Et les deux derniers, c'est le CNVB et Amiens.
Qui ont donc on a que deux points. Voilà. Alors, on est qu'à deux points de la Ligue B alors.
Du second.
Ouais,
du second.
Ce qu'il faut pas, il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que Martigues a un match de moins que nous, par exemple, à l'heure où on parle. C'est-à-dire, tu sais que on va garder les points contre les trois de notre poule, donc ça fait six matchs. Et donc nous, pour le moment, on a que cinq matchs. Mais Martigues, dans le calcul de points, n'a que quatre matchs.
Donc on est à 2 ou 4 points de voilà. La deuxième
place. Donc en fait tu es à 5 points. Tu as 5 points de IAC puisque IAC a 5 matchs et que Mende a 5 matchs, donc tu as 5 points de retard pour l'instant sur Saint-Jean d'IAC et donc à Fréjus tu as 2 points aussi de retard sur Fréjus puisque Fréjus a 5 matchs et toi tu as 5 matchs. Mais donc comme Martigues pour le moment a un point de plus que toi mais virtuellement peut-être 3 points 4 points puisqu'ils ont un match de moins que toi mais en fait bon, c'est compliqué, il faut attendre que
c'est contre Fréjus. Qui ils doivent jouer contre Mende et contre qui
ce samedi tu as Martigues Fréjus donc bien sûr un match qui va compter pour les playoffs puisque des équipes sont qualifiées et donc dans 15 jours le samedi 3 février au Piencourt 20h30 match au sommet Mende Martigues. Bien sûr, un match qui va compter puisque deux équipes sont qualifiées.
Alors qu'est-ce qui nous arrangerait là pour ce Martigues Fréjus?
Il faudrait un 3-2
pour...
Moi, je dis un 3-2 pour Fréjus. Et après, battre Martigues, 3-0 ou 3-1. Et là, tu reviens totalement dans la course à la montée.
C'est surprenant quand même, aller perdre au CNVB, même si c'est au tie-break, enfin si c'est à 3-7-2.
Oui, non, mais tu fais mine de dire, très surprenant, puisque en plus Martigues n'avait pas perdu un match depuis le début du championnat. Mais bon, comme on l'a vu, moi j'étais là, man de CNVB, une équipe de CNVB qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir les saisons précédentes, où il y avait une équipe qui pour moi n'avait pas le niveau d'élite, et d'ailleurs ils étaient qualifiés à l'arraché. Mais là cette année, bon, le CNVB prouve que c'est vraiment une équipe qui a le niveau élite et qui mérite sa place sur le terrain d'aller en play-off.
Pour revenir sur le match de Mende, on menait 2-7-1.
Ouais.
On perd 3-7-2, un peu rageant quand même.
Ouais, j'ai vu.
Le quatrième set, c'est la cata, quoi. 25-13. Ouais.
Alors j'ai vu Constant ce matin, j'ai pu discuter un peu avec lui. Donc premier regret pour lui, c'est ce premier set où on menait un début de set et puis on prend 5 ou 6 réceptions directement de l'autre côté du filet. Et donc ça fait peu basculer le set et donc tu le perds sur le fil. Donc quand tu vois qu'après tu gagnes les deux sets suivants, je vous laisse imaginer le regret que tu peux avoir sur ce premier set. Et puis comme Laurent vient de le dire, le quatrième set où Costan avait décidé de faire reposer son 6 titulaire et donc de faire rentrer les remplaçants parce qu'il sentait bien que au bout de 3 sets, il y avait eu un énorme effort du 6 majeur et donc certains commençaient à souffrir physiquement, donc il a mis son banc. Et puis il faut reconnaître que les remplaçants n'ont pas fait le set que Costan espérait, parce que même si tu peux dire que ce set tu pouvais le perdre, mais au moins tu vois qu'il dure 10 minutes ou un quart d'heure de plus. Parce que comme Fréjus n'avait pas fait de remplacement, au tie-break, il y aurait eu une fatigue encore plus importante du 6 majeur de Fréjus. Puis là, 25-13, ça a été hyper rapide. Et donc, en fait, ça n'a pas permis d'exploiter vraiment, d'avoir reposé le 6 majeur. Et puis, bon, ce tie-break où Mende perd 14-10. Donc là, tu te dis que c'est complètement terminé. Et donc, il y a Eli Carbois qui fait une série de services totalement hallucinants. Et donc, tu mènes 15-14. Après, tu as deux balles de match et tu perds quand même 19-17. Donc, c'est vrai que beaucoup, c'est quand même rageant. C'est rageant de perdre ce match.
Alors, on dit chaque semaine, on y verra plus clair le week-end prochain. On y verra plus clair le week-end prochain. Ce sera encore le cas avec ce match, donc, Martigues-Fréjus.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire pour nos Mendois, ce week-end, il y a un déplacement à Charenton qui compte absolument pour rien puisque les points contre Charenton seront effacés. Donc, voilà, il y a 15 jours, en fait, pour se préparer pour ce match au sommet contre Martigues. Et c'est vrai qu'avant, il y aura ce Martigues-Fréjus qui va compter lourd dans le décompte des points en play-off.
Voilà, faudra faire le plein là dans 2 semaines en espérant que, comme tu l'as dit ce week-end, Martigues Fréjus se neutralise, que ça donne pas beaucoup de points d'un côté ou de l'autre.
Alors c'est vrai qu'aussi, Constant me disait, il y avait Loïc Alphos qui était vraiment malade, une grosse gastro, et donc il était pas à 100%, donc c'est sûr que ça tombe mal quand tu fais à Fréjus un match au sommet. Bon, alors c'est le lot de toutes les équipes, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a eu tout un tas de petits détails comme ça qui ont fait basculer cette rencontre. Mais bon, le gros point positif, C'est vrai que bon, je l'avais écrit dans le journal de jeudi. On attendait vraiment cette équipe de Mende au tournant, surtout dans l'envie, dans la motivation, dans le. Et donc c'est vrai que là, il y a eu un visage totalement différent de cette équipe, avec un gros match de la part de Mende, le meilleur match de la saison, incontestablement. Et donc, ça met de l'espoir pour dans 15 jours ce match au sommet contre Martigues.
Super. Désolé, on parle de Gastron, on rit. On est vraiment des gamins, quoi. L'équipe réserve, par contre, continue de dérouler. Et ça, c'est vraiment bon signe. Alors, je tiens à leur dire bravo parce que ils ont eu une saison l'an dernier qui était compliquée. Aurélien, s'il te plaît. Et cette année, c'est beaucoup mieux. Victoire face au Cres, 3-7 à 0 au classement Auré. Au classement, Julien.
Alors, au classement premier, Gignac, 29 points. Deuxième, donc la réserve du MVL, 28 points. Troisième, l'Arago de 7, 27 points, mais un match en moins. Et quatrième, 7 volets club, 26 points. Et un petit match sympa ce week-end, puisque la réserve du MVL va samedi à 18h à Gignac.
Ah, donc le premier contre le deuxième. Ça sera pas un match comme l'équipe première, ça sera pas un match pour du beurre, ouais. Ça sera un vrai choc. Capital vrai, déjà pour la montée, quoi.
Un vrai bon gros
tournant,
match là.
Un ouais, tournant pour ouais.
C'était pour la annoncé un peu en début de saison. J'avais un peu parlé avec Sofiane Cadour qui m'avait dit que la montée se jouerait certainement entre Gignac et Mende. Bon, il y a deux invités surprises là, les deux équipes de 7. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner samedi à Gignac pour cette belle affiche.
Et là, à ce niveau-là, la montée elle se joue sur la première place
oui,
seulement.
Ouais, oui, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de play-down. C'est un championnat comme au foot. Le premier au terme des matchs aller-retour.
Parce que Mende avait perdu 3-7 à 2, je crois, à l'aller contre Gignac à domicile, oui. Si mes souvenirs sont bons. Donc,
c'est là, c'est pour monter en quelle division ?
En National 3.
Ah oui.
Ouais, ce qui serait bien pour le club, pour les joueurs et aussi pour Constant.
C'est toujours bien de réduire l'écart entre une équipe 1 et une équipe 2.
C'est une volonté du club. Bon, maintenant que tu es aux portes de la Ligue B, maintenant depuis deux saisons. C'est vrai que la volonté du club, c'est d'avoir une équipe réserve au niveau national.
Ouais. Allez, football, l'AFL ne jouait pas ce week-end. Match reporté, on l'a dit la semaine dernière. Enfin, on n'en était pas sûr, on espérait. Et
le match a été confirmé.
Ça a été confirmé contre Canet.
Au 10 février.
Au 10 février, voilà. Canet qui doit jouer contre Caen en Coupe de France, on le rappelle. Alors, dans les autres matchs de ce championnat, le leader, la réserve de Toulouse, a gagné contre Fabregues 2-0. La réserve de Montpellier fait match nul, 1-1 contre Balma. Donc ça, c'est pas trop mal pour nous. Et Toulouse-Rodéo, Nîmes 2 a été reporté. Donc l'AFL reste au contact. Premier, Toulouse... 27 points, Nîmes 24 points, un match de moins, Perpignan 23 points, un match de moins, et Mende à égalité avec Montpellier avec 22 points, sauf que Montpellier a tous ses matchs, et l'AFL un match de moins, donc à 3 points la victoire, si devant ça ne gagne pas et si on gagne Perpignan, on peut remonter à la seconde place, à 2 points de Toulouse.
Tout à fait.
Faudra suivre ça. Le prochain match, c'est quand ?
C'est samedi prochain. Il n'y a rien ce week-end, samedi prochain, réception d'Alès.
Voilà, donc le 3 février, le même jour que le volet contre Martigues. Mais donc le foot joue un peu avant.
Ouais,
donc
18h30, ouais.
Voilà.
Ça fera un bel enchaînement.
D'accord, ce week-end, c'est Coupe de France, ouais, de Canet.
Non, c'est mardi, non. C'est demain. Mardi.
Alors
demain.
Pourquoi il n'y a rien ce week-end ?
C'est un week-end de libre pour les matchs en retard et pour les matchs de coupe plutôt de région. Quoi.
Oui, c'est ça.
Ok. Gros match de la réserve, victoire contre la réserve d'Alès, 5-1, but de Barondon, Bourguet, Folcher, Bourré et Ocon. L'AFL qui est à 5 points du leader, 4e, mais avec un match de plus. Julien, tu as eu des échos de ce match?
Non, pas spécialement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on leur a rendu la claque qui nous avait mis à l'aller, puisqu'on avait perdu 4-1 là-bas à l'aller. Et donc là, malgré l'ouverture du score qu'on a concédé hier, il y a eu une super réaction de toute l'équipe et une belle victoire 5-1. Et au-delà d'être pas trop loin des premières places, on prend surtout 6 points d'avance sur la zone rouge. Et ça, c'est vraiment le point positif de la journée de hier. Et pareil, ce week-end, rien, donc, puisque c'est consacré à la coupe. Et dans 2 semaines, on ira à Metz, qui est justement dans cette zone rouge avec 6 points de retard sur nous. Donc si on avait la bonne idée d'aller gagner à Metz dans 2 semaines, on distancerait encore un adversaire.
Il y avait des joueurs de la Une qui sont descendus un peu ou pas ?
Il y avait Johan Malo.
Ouais.
Qui, ben, d'un côté, en fait, on pouvait pas changer beaucoup l'effectif de la semaine dernière, puisque vu que la Une ne jouait pas ce week-end, on n'a pas le droit de faire jouer des joueurs de la Une en équipe 2.
D'accord.
Voilà. Donc le groupe était sensiblement le même que la semaine dernière. Et en joueur de la Une, il y avait donc Johan Malo et Léo Bourré.
Voilà, un joueur comme Barbu qui a joué ben, contre Toulouse ne pouvait pas jouer en réserve puisque la première ne jouait pas.
Ok. Dans les autres matchs, le Buisson est allé gagner à Poulsk, 4 buts à 1, but de doublé de Pascal, Tierno et Ostalier. La départementale 3 jouée, ça a donné quoi? J'ai pas vu les résultats.
Victoire 5-0 contre le Buisson, la 2 du Buisson.
D'accord. Donc, dont un super but contré. Ouais.
Non, c'est pas vrai, non. Il est pas contré.
Grâce au vent.
Arrêtez de me chambrer, pour une fois que je mets un beau but, laissez-moi tranquille.
Non, non, j'ai eu des échos, il a vraiment mis un beau but.
Hors-jeu
contre mais les hors-jeu. Moins de 16 de l'équipe du Buisson.
Ils sont terribles. Ils sont terribles.
Par contre, on peut citer les autres résultats, puisqu'il y a eu une micro-surprise. Nord-Lozère 2 est allé gagner 3-1 au Val-d'Aunès.
Et même la victoire de Margerie d'Amonroda.
Et la victoire 3-2 de Margerie d'Amonroda, la victoire de Chirac 4-1 contre Aumont. Voilà, c'était les seuls matchs qu'il y a eu ce week-end.
Puisque tous les autres ont été reportés, et du fait du match de Marvejols reporté, on est leader provisoire. Alors certes, avec un match de plus sur Marvejols, mais... C'est toujours bon à prendre.
C'est bien, ça y est, ça se reconstruit. Ouais. On a attendu, ça remonte. Très bien. Ok, côté foot, on a d'autres résultats. Je vois plus les résultats de l'Anglade, je sais pas, de Langogne, pardon.
Non,
je sais
pas qu'est-ce qu'ils
font. C'est la trêve.
Très grande trêve.
Ça reprend fin février, je crois.
En Auvergne, oui.
Il me semble que ça reprend fin février, oui.
Ouais. Rugby, Mende est passé tout près de l'exploit chez le second ancien leader, Lunel, défaite 19-13. Tu as eu des échos aussi, Patrick, de ce match ou pas du tout?
Oui, il y a eu une belle première mi-temps de la part des joueurs mendois. Et puis, après quelques erreurs, un peu comme, j'allais dire comme d'habitude, comme souvent, comme trop souvent. Et donc, c'est dommage de perdre encore une fois ce match, même s'il y a le bonus défensif. Mais bon, je crois qu'il y avait au moins 10 points d'avance à la mi-temps.
Ouais, c'est ça, il y avait 10-0.
Ouais, voilà, donc 10-0 à la mi-temps. Ce qui était une énorme performance, parce que le match aller, il y avait une victoire de Lunel 16-5. C'est un match que j'avais vu. Et donc, Lunel, belle équipe. Et d'ailleurs, au classement, on voit tout, qui sont vraiment en tête. Et donc, un club de Lunel qui veut vraiment monter en Fédéral 3. Qui a annoncé la couleur et qui en plus a recruté 4 jeunes joueurs directement en provenance d'Afrique du Sud. Alors des gamins de 20 ans, mais bon, quand on connaît l'importance du rugby en Afrique du Sud, alors réglementairement, ils peuvent en mettre que 2 sur la feuille de match à chaque match, mais bon, on voit quand même que ce club, alors c'est des jeunes qui viennent en France pour apprendre le français, un peu dans le cadre des études, mais en fait, ça fait rien. Ils ont une grosse culture au rugby et donc ça prouve toute l'ambition de ce club. Donc c'est dommage, mais belle performance quand même des Mandois, mais il manque toujours un petit quelque chose, c'est dommage.
Alors le petit quelque chose, est-ce que ce serait pas un petit peu de fraîcheur physique? Puisque déjà la semaine dernière, ils menaient 13-0 à la mi-temps, oui. Avant de se faire rattraper et doubler, là cette fois-ci 10-0, ils se font rattraper et doubler. Est-ce que c'est pas un petit problème
C'est un peu le même scénario, parce que c'était 13-3 à la mi-temps, donc il y avait aussi 10 points d'avance contre Bédarieux, et en plus il y avait à 15 contre 14. Et donc là, pareil, 10 points d'avance à la mi-temps à Lunel, donc c'était vraiment une grosse surprise, parce que après la défaite justement contre Bédarieux d'un point, tout le monde disait ça va faire du 30-40 points pour Lunel, un déplacement un peu galère. Mais non, ça n'a pas été le cas. Mais bon, là, par exemple, il y a eu un essai cadeau, une mauvaise transmission et une interception. Et puis le gars, il va aplatir au milieu des poteaux. Donc, ça te fait 7 points quasiment gratuits. Et dans un match serré comme ça, c'est vrai que ça fait mal.
Un peu de fraîcheur et de la discipline aussi, hein, puisque Lunel revient sur un carton jaune que se prend un joueur mandois. Ouais. Et donc, qui laisse son équipe à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, c'est là où Lunel marque 2 essais, il me semble. Et il revient totalement dans le match, donc ça a dû jouer aussi dans les têtes.
Oui, Lunel qui est que second, derrière 7, parce que tu parles de Lunel qui va tout prémonter,
ils étaient premiers. Ils étaient
7,
premiers,
ils sont solides quand même.
Ils étaient premiers ex aequo, mais là, bon, après ce match-là, maintenant ils ont un point de retard sur 7. Ouais.
7 qui a gagné 21-6 à Rivedorbe, donc il a dû prendre un point de bonus, c'est ça?
Oui, offensif.
Oui. Mais ce qu'on peut dire par rapport à 7, je l'avais déjà dit, mais 7 serait en infraction avec ses équipes de jeunes, et donc serait peut-être interdit de monter et même de participer au championnat de France.
Ah.
À suivre. Ouais. À suivre là aussi, parce que c'est vrai qu'en rugby, il faut faire très attention, parce que à la fin des phases qualificatives, il y a tous les comptes qui sont remis à zéro avec justement toutes ces histoires de règlement et de possibles sanctions en termes de points, et donc ça peut modifier parfois assez grandement le classement final avant justement d'attaquer les phases finales.
Ok, merci Patrick. Une défaite également, c'est handball du côté de la réserve du MGC d'un petit but contre Béziers, 28-27. Au classement, Aramon, premier 29 points, Terran, deuxième 23, Thuir, troisième 23 et Mende, quatrième, mais avec un match de moins, qui a 20 points sur ce match. Côté stats, un peu côté match, Laurent, ça a donné quoi?
Mais côté stats, il y avait quand même le renfort d'Erwan Pott sur ce match et de François Velay, qui ont chacun mis 9 buts. Voilà, rien de plus.
Quelle belle analyse,
voilà,
merci.
Quelle belle analyse.
Merci, Laurent.
Et on peut annoncer pour samedi la reprise de la N3. Ah. Après, là aussi, une longue trêve. Donc, un match à domicile contre un club qui est. Voilà, qui est quatrième. Donc, un gros match à la Vernède, 20h30. Pour une reprise, on espère, en fanfare de nos Mandois. Et pour finir sur le rugby, le rugby reçoit encore dimanche à 15h au chapitre contre l'Avenir Bleu et Blanc, qui est un club du haut de tableau, puisque je crois que c'est le troisième. Donc là aussi, gros match pour les rugbymen.
Ils sont troisième, c'est ça. Ouais. Exactement. Allez, les prénationales féminines ne s'arrêtent plus. Une nouvelle victoire contre Frontignan, 30-25. Au classement Auré, ça nous donne quoi?
Alors, premier Montpellier avec 25 points, deuxième Frontignan 22, troisième Jacou 22 également, quatrième Thuir 20, cinquième Bouillargues 19, sixième Mende 18 points, et derrière il y a Lunel avec 15 points, un peu plus loin.
Ouais, donc on a gagné à domicile les secondes du championnat.
Hein. Excellent.
Belle perf. Hein.
Belle opération, ouais.
Alors là, pareil, les stats, 8 buts pour Charlotte Roux et Clara Rodier. Belle perf aussi de Oran Nicoli qui met 7 buts, ouais, c'est ça. Et aussi à noter Laurie Grosset, la gardienne, qui fait 20 arrêts sur ce match.
Oh, c'est énorme ça.
Bravo Laurie.
Notre Vincent Gérard.
C'est ça.
Ouais. Une info Coupe de France là, tu l'avais?
Je l'avais.
Alors vas-y, je te laisse le dire.
Bah, alors donc ça sera le tirage a eu lieu mardi, c'est pour ça que la semaine dernière j'ai pas pu vous donner l'info. Ça sera le 25 février. Le 16e de finale contre un club de Beaurepaire. C'est un club de l'Isère qui est 3e dans son championnat, un championnat à 8, donc 5 victoires, 4 défaites. Donc c'est sur terrain neutre et ça sera en Isère. Donc voilà,
ah bah, terrain super neutre, le terrain neutre.
En Isère. Et donc ce même jour, si par chance il y a une victoire contre Beaurepaire, il y a aussi le 8e qui se jouera dans la foulée contre une autre équipe. Voilà, c'est un genre de tournoi 16e, 8e ce jour-là.
C'est un peu comme au volley avec les quarts de finale et les demi-finales, comme c'est on ça. Avait vécu l'année dernière, où après on est allé en finale à Clermont-Ferrand. Ouais.
C'est le même niveau que le MGC, c'est ça, là, c'est pré-national. Pour repère, c'est pré-national aussi. 5 victoires, 4 défaites, il y a un coup à jouer.
Oui, il y a un coup à jouer.
Ouais. Le match, il est prévu à 12h30, je crois, le 8e de finale. Le 16e, pardon. Pour justement pouvoir après enchaîner sur les huitièmes.
Ok. Bon.
Donc le 25 février.
25 février, ouais. C'est noté. Du côté du handball, Nord-Lozère, victoire de la pré-nationale 20-18 contre Saint-Mamé. Défaite des filles départementales 26-18 à Aurillac. Et côté garçon, une défaite honorable 27-25. Car il y avait seulement 7 joueurs des garçons qui se sont déplacés à Aurillac. Et on parlait des féminines qui ne s'arrêtent pas de gagner. Aussi, on ne les arrête plus. L'équipe du coach Auré, deuxième match à domicile, deuxième victoire. 61-36 contre Alba 4.
C'est du basket, là.
C'est du basket.
Oui.
61-36, c'est bien. Vous encaissez pas beaucoup de points.
On fait effectivement.
Vous en marquez plutôt pas mal.
La défense est un de nos points forts, même si je veux chipoter un peu, je trouve qu'on fait quand même pas mal de fautes encore, qui nous coûte quelques lancers francs qu'on pourrait éviter, mais sinon très bonne opération contre Alba 4 qui était comme disait Patrick la dernière fois, une des quatre équipes qui était susceptible encore de jouer les deux premières places pour la montée. Donc c'est vrai que là en gagnant à domicile contre cette équipe, on les relègue un petit peu derrière et on les enlève de la course à la montée.
Laurent, toi qui es le porte-bonheur de cette équipe, qui va aller voir à tous les matchs à domicile, ça, c'était la semaine dernière ou
D'ailleurs, il est venu avec sa fille Alicia, je lui fais un petit coucou et je la remercie d'être venue, si elle m'écoute, voilà, c'était très sympa.
Ben oui, j'avais amené du renfort. Et ouais, c'était plus serré. On voyait que l'équipe adverse avait quand même des éléments un peu plus basketteurs, je dirais, dans l'effectif. Même s'ils étaient venus qu'avec deux remplaçants, il me semble.
C'est ça, 7 joueurs en tout. Hein.
Mais il y avait quand même des joueurs, des bons joueurs dans l'équipe adverse. Mais l'équipe de Mende a bien déroulé son jeu. Et je trouve qu'Aurélien est un peu dur avec ses joueurs parce que défensivement, ils y sont. Même quand il y a de l'avance à la fin, ça défend quand même. Et c'était agréable à voir. Voilà, je vous le conseille d'aller voir ces matchs le vendredi, c'est bien sympathique.
Voilà, ouais, ça a été effectivement un peu plus compliqué que le match précédent. En témoigne ce premier carton, hein, qu'on gagne que 15-13. Comme l'a dit Laurent, les joueurs en face avaient un gabarit un peu plus imposant, notamment dans la raquette où c'était difficile de pénétrer dans la raquette. Et ça nous a empêché de marquer les paniers faciles qu'on marque d'habitude. On a eu un peu de non-réussite sur des paniers faciles. Ça nous a empêché de faire le trou d'entrée. Mais on a mis voilà un quart temps pour prendre la mesure de cette équipe
et plus 14 à la fin du deuxième quart.
Voilà, on était à plus 2 à la fin du premier et plus 14 à la mi-temps. Donc c'est vrai que dès le deuxième quart temps, on a enclenché la seconde et ça nous a permis de faire le trou et de finir le match plus sereinement.
Et du coup, vous laissez cette équipe d'Albacete derrière, ce qui est bien. Patrick, tu voulais dire ?
Oui, j'allais dire justement ça. Au niveau du classement, on se rend compte que le BCM a encore un match en retard. Et ça sera ce vendredi.
Sur Alba 5 qui est premier,
sur certaines équipes deux matchs encore.
Mais au niveau du calendrier, bon, ils seront à jour après ce match donc contre Saint-Géniès de vendredi. Et donc bon, Saint-Géniès est dernier. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, et donc c'est virtuellement premier ex-aequo avec la réserve de Druel qui. Elle aussi n'a perdu que deux matchs, mais qui en a gagné un de plus, puisque eux, ils sont à jour. Donc, Druel est à 8 victoires et 2 défaites. Et donc, toi, pour le moment, tu as 7 victoires, 2 défaites. Et après, les autres équipes ont au moins 3 défaites. Donc, c'est le cas de Alba 5. Bon, donc, voilà. Donc, sachant qu'il y a deux montées, donc tu es virtuellement premier ex aequo. Donc, oui, tu es à la lutte vraiment intense et, jusqu'à la fin de la saison pour... espérer avoir cette accession, ce qui serait quand même un excellent résultat, j'allais dire un exploit, peut-être pas, mais en tout cas un excellent résultat, parce que bon, vous découvrez ce championnat de l'Aveyron, répétons-le, après une année sabbatique, une année hors championnat où vous n'avez pas pu vous aligner, donc là vous rejoignez ce championnat de l'Aveyron, et excellente performance de ce groupe qui va lutter pour la montée jusqu'à la fin.
Et la montée, c'est un régional au-dessus, la division au-dessus ?
C'est un pré-région.
Un pré-région, ouais, voilà. Il y a combien d'équipes d'Alba en pré-région ?
Il y en a une.
D'accord.
C'est pré-région, c'est toujours côté Aveyron ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Et ouais, mais effectivement, comme tu as bien résumé la situation, Patrick, et c'est une situation qui va se décanter sur le mois de février et début mars, puisque là, donc vendredi soir, on joue Saint-Géniès le dernier à domicile. Donc j'espère que le match va se passer sans souci. Et puis ensuite, on enchaîne contre les trois équipes qui sont actuellement aux trois premières places de ce championnat, c'est-à-dire Olemps, Alba 5 et la réception de Druel, qui j'espère sera une finale avant l'heure. Ça veut dire qu'on aura fait un parcours sans faute sur ces matchs-là. Donc
c'est la fin des matchs aller après ?
Non, c'est les matchs aller sont déjà terminés.
Voilà. Ils sont déjà terminés.
C'est déjà les matchs retour là.
Ok.
C'est déjà les matchs retour. En sachant que les matchs retour, on a nos deux défaites, c'est contre Alba 5 et Druel 2. C'est-à-dire que nos adversaires directs, on n'a pas réussi à les battre à l'extérieur.
Mais c'est à l'extérieur. Voilà.
Ouais. Donc j'espère qu'on va renverser la tendance à domicile. Et voilà, ce match contre Druel, c'est le 16 février. Et juste avant, on aura reçu Alba 5. Donc on en saura un petit peu plus dans un mois. On y verra plus clair aussi.
Allez, mais on verra ça. On va faire une petite pause musicale. On revient après pour parler du foot, du championnat d'Europe, de handball et un peu de basket aussi. Tiens, on va en parler. Electric hum and glow.
in forgotten time. The trampled down the fences, so to lose their minds. And so it goes. Only trouble is we never know. So looking for a reason, but I'm not quite sure that I don't like the answer. But as long as we're together, we're safe in the arms of love. I said yes, the arms of love. We across the valley on the mountainside. Poets ride up dying and they drink black wine. They dream about a hero with broken wings and dance to join the devil, but it's not what it seems.
Allez, on a oublié de donner une info importante là, sur le basket, Laurent.
Oui, vendredi, il n'y avait pas d'arbitre au match. Donc, du coup, c'est deux licenciés du club qui se sont proposés. Donc, c'est Valérie Trémolière, notre spécialiste judo, karaté, plutôt, karaté.
Karaté, fais gaffe à ce que tu dis.
Et qu'on connaît bien à 48 FM. Et Mesut
Ayildiz,
qui est d'habitude sur le terrain un très bon joueur, qui là officie en tant qu'arbitre, et ils se sont très très bien débrouillés à tous les deux. Bravo voilà. À eux.
Alors, exactement, ça a été ils ont très bien tenu le match.
Donc la Fédé a fait n'importe quoi, a oublié de programmer des arbitres.
Mais c'est ça, on ne sait pas s'ils ont oublié ou s'ils sont pas venus, en tout cas on n'était pas prévenu qu'il n'y avait pas d'arbitre, donc c'est vrai qu'on a été obligé de trouver ces deux personnes au pied levé.
Eh ben écoute,
ils se sont très bien débrouillés.
Bon, c'est très bien. On les remercie de vous avoir aidé et d'avoir bien arbitré ce match. C'est important.
Cela dit, Mesut, c'est un très bon arbitre, mais je préfère quand même le voir un dynamiteur sur le terrain aussi.
Moi aussi.
Ouais.
Et ouais, en plus, c'est ça, hein, vous avez laissé tomber un des membres de votre équipe, un bon élément pour arbitrer.
Ouais, ouais, mais étant donné qu'il fait la formation arbitrage cette année, c'était l'occasion pour lui de mettre en pratique ce qu'il a vu depuis le début de l'année.
Et oui, parce qu'il faut des diplômes ou quelque chose pour pouvoir.
Ouais, oui, il faut une formation, oui, il faut faire une formation, effectivement.
Ok. Allez, le handball, le championnat d'Europe, on va vite passer dessus. Pas grand chose à dire. Nouvelle victoire de l'équipe de France contre la Suède, il me semble. Ouais, 23-17. Et on joue demain ou ce soir, je sais plus, Patrick.
Ce soir. Contre la Serbie.
Contre la Serbie.
À 18h15.
Contre la Serbie qui est dernière du groupe, je crois, qui a pas gagné un match.
Qui est éliminée.
Mais ça sera dur quand même.
On est premier, bien placé.
Bah oui.
C'est pas la Serbie qui a dit qu'il jouerait plus si l'arbitrage continuait comme ça.
C'est la Slovénie.
Ah, c'est la Slovénie, ouais.
C'est des mauvais perdants.
Ouais, c'est l'entraîneur qui a dit si ça continue, on arrête la compétition.
Parce qu'il y a eu 10 minutes de visionnage vidéo contre l'Allemagne pour accorder ou pas un pénalty justement à l'Allemagne. Et donc le pénalty a été accordé. Et donc l'entraîneur de la Slovénie s'est mis dans les buts pour empêcher l'Allemagne de tirer ce pénalty. Bon, après il est sorti des buts. Le pénalty a été tiré et l'Allemagne a égalisé à la dernière seconde contre la Slovénie, 25-25. Donc ça a fait un incident diplomatique dans tout cet euro.
Il serait pas dirigeant à Fabregue 2, lui, au foot.
Écoute, peut-être c'est un cousin éloigné. il faudra qu'on fasse des recherches.
Mm-hmm. Ah d'accord, j'ai pas suivi ça.
Et donc ils ont menacé suite à ça de quitter le championnat d'Europe. Et bien sûr,
dis 10 minutes, t'exagères.
Je te promets. Il y a eu un visionnage de la vidéo par les arbitres. C'était la dernière action. Et donc ça a mis fou. Il y a eu 10 minutes entre le moment où l'action répréhensible a eu lieu et le moment où le joueur allemand a tiré le penalty. 10 minutes, c'est énorme.
Il peut te le dire. Il y a eu 5 articles de l'équipe pendant qu'on attendait Patrick.
C'était impressionnant. Mais honnêtement, pour avoir vu les images, le penalty est totalement justifié parce qu'il y a un joueur slovène qui a empêché un engagement rapide. Après un but justement à Slovénie, donc l'Allemagne voulait engager rapidement, il y a un joueur qui s'est mis dans le rond central et qui a gêné, et donc le règlement dit que tu n'as absolument pas le droit de te mettre là où le joueur était positionné, donc c'est normal qu'il y ait eu pénalty et carton rouge.
Et pourquoi ils ont pris 10 minutes alors que ça a l'air tellement évident?
Parce
qu'il y a des pubs.
Il y a eu tout un tas de contestations et voilà. D'accord. Par contre, la Slovénie peut se sentir flouée parce que avant cette décision logique, il y a eu 3-4, pour pas dire 5 situations un peu litigieuses dans les 5 dernières minutes, et chaque fois ça a été en faveur de l'Allemagne. Donc sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage.
Il y a 2 poules pour ce championnat ou plus?
Oui. J'ai pas suivi. Là, tu es en deuxième phase, donc il y a 2 poules. Et de l'autre côté, il y a l'Espagne, la Macédoine, le Danemark.
Qui est en tête de l'autre côté?
Il y a l'Espagne, le Danemark et la Macédoine. Donc les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales.
D'accord. Donc ouais, ça va être Danemark, donc, Espagne, là, comme d'habitude.
Comme la Croatie a battu la Norvège est vraiment mal en point puisqu'on les avait battus en première phase. Et donc, a priori, c'est la Croatie et la France qui vont passer en demi-finale. Donc la Norvège éliminée, ça fait déjà...
Et donc, comme on ne pourra pas se re-rencontrer se retrouver contre la Croatie en finale.
Voilà. Et contre la Croatie, on joue mercredi.
Et c'est en Croatie.
Mercredi soir, on joue contre la Croatie, mais pour le dernier match de cette deuxième phase. Après, il y aura les demi-finales vendredi et la finale dimanche.
Ok, c'est en Croatie, pour reprendre la question de Laurent. Ok, parfait, bon, on va suivre ça. On va parler de football. Marseille qui continue sans faute là depuis quelques matchs. Bravo Rudy Garcia.
Oui.
On se moquait d'eux, du champion de ce project. Et bien, au final, si Lyon avait pas. Allez, je vais parler d'exploit, parce que c'est quand même un exploit en ce moment de gagner Paris. Gagner contre Paris, Marseille serait second. Au classement, ça donne Paris 56, Lyon 48, Marseille 47, Monaco 46, et après on descend à 34, Nantes-Nice, on s'arrête à Montpellier qui a 31 points. Que fait Paris à moins d'un mois de ce match contre le Real Madrid? Ça commence à faire quelques contre-performances quand même. Hein,
ils ont quand même mis 8 buts dans la semaine.
À Dijon, ouais. Contre Dijon. Parce que là, Madrid se reprend, ils ont gagné 5-1 contre
7-1 contre la Corogne.
Là, t'as quand même un contexte de match et des situations sur le match de Lyon qui font que t'as pas à être trop inquiet quand même pour ce match de Champions League.
Enfin, il y a un goal qui est pas serein, dès que t'as pas Neymar, c'est plus la même équipe. Non, mais se poser des questions. Hein.
C'est vrai, mais je trouve qu'on est dur avec Paris. Alors, c'est bizarre. Hein. Un Marseillais à 4000 comme moi qui presque défend Paris, mais je trouve qu'on est vraiment sévère. Et moi, ce qui me gêne.
Patrick a de la fièvre.
Non, mais ce qui me gêne.
Si un auditeur a des doliprane, ah, venez nous les amener.
Ce qui me gêne, c'est qu'on se réjouit presque de l'élimination de Paris contre Madrid. Alors que moi, je vous le répète, je suis à 4000% pour Paris. J'espère qu'on va.
Personne se réjouit ici.
Torcher ce Real de Madrid. Tous ces clubs, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils vont réussir à faire changer le fair play financier. C'est-à-dire ce que Paris a fait en prenant Neymar et Mbappé, tu ne pourras plus le faire parce qu'ils vont calculer comme quoi, par exemple, si tu achètes pour 400 millions, il faut que tu vendes pour 300 millions. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait un écart de plus de 100 millions d'euros entre les achats et les ventes. Bon voilà, c'est complètement écœurant parce que pendant des décennies, ça a gêné personne, et puis maintenant que Paris arrive et Manchester City aussi, et donc ça les bouscule un peu dans leur histoire, dans leur confort pour gagner cette Ligue des Champions, et donc ils vont maintenant changer toutes les règles pour écœurer ces nouveaux investisseurs. Moi c'est ça qui m'énerve. Pourtant
ils s'en fichent, ils ont déjà acheté les joueurs Patrick.
Ouais, mais bon,
maintenant,
mais Paris s'en fiche, mais nous Marseille là, si on a que Rafani, Havane et Sakai quoi.
on pourra pas acheter
Sakai, comment ça
pas acheter Ronaldo. On pourra pas acheter Cristiano.
Si tu peux acheter pour 400 millions à Marseille, tu m'appelles hein. Tu crois pas un instant.
Ah mais quand tu lis les déclarations de Lasse juste avant le match jeudi, je sais pas si vous avez vu, c'était dans le Parisien. Bon, toujours la même rengaine, le Qatar ci, le Qatar mi, ouais, mais le Qatar, en tout cas, c'est pas Monaco. Neymar, hein, il gagne peut-être 35 millions, mais voilà, il paye autant d'impôts, il respecte toutes les règles, il n'y a vraiment rien à dire. Alors que Monaco, ben, je le répète, nous, on a Luis Gustavo, 500 000 euros par mois, donc ça te plombe les finances d'entrée. Mais si Luis Gustavo, il joue à Monaco, eh ben écoute... il coûte rien, puisqu'il coûte juste le salaire, il y a zéro impôt sur Luis Gustavo. Voilà, moi le vrai scandale pour moi, c'est pas Paris Saint-Germain, c'est Monaco.
D'accord, mais tu as pas du tout répondu à la question de base, mais c'est très bien Patrick. On disait
non,
que
il est pas inquiet pour Paris alors.
Non, je suis pas inquiet pour Paris. Non, j'espère qu'on va éliminer le Real de Madrid et qu'on tombera contre Barcelone en quart de finale et qu'on éliminera.
Il commence à dire voilà.
Et qu'on éliminera Barcelone en quart de finale. Attention.
Hein. Bientôt il va dire Paris droit au but. Hein.
Après en finale, bon, il faut qu'il parte en finale pour qu'on reste quand même le premier unique club à gagner la Ligue des Champions.
Bon, on sera toujours les premiers.
Ouais. Les premiers à tricher.
Le seul point faible moi, que je vois dans cette équipe, effectivement, c'est les latéraux quand même. Que ce soit Kurzawa ou Dani Alves, c'est vrai que le point faible, quand ils vont se choper Gareth Bale et Cristiano Ronaldo là, contre Madrid, ça va faire mal quand même.
Vous avez vu les deux buts du gardien, Quand encaissé le gardien hier soir, c'est un point faible le gardien au PSG. Enfin, ou alors qu'il reste sur sa ligne, enfin, qu'il fasse quelque chose quoi.
Julien, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Latéraux, goal.
Ouais, latéraux, problème. Goal, ouais. Bah là, le problème des latéraux, c'est que dans les latéraux, il y a Dani Alves. Dani Alves, il a été recruté pour jouer et pour être un peu un leader de vestiaire. Et j'ai l'impression qu'Emery, il a pas, comme dirait un bon espagnol, il a pas les cojones quoi, pour le sortir du 11 de départ. Parce que je pense que s'il le sort du 11 de départ, il y a toute la communauté brésilienne qui va râler. Mmh. Là, c'est des petits égos, là.
Après,
Pour moi, Thomas Meunier a largement sa place dans le 11 du PSG.
Dani Alves, c'était peut-être le meilleur joueur de l'année dernière, hein, si on se rappelle du parcours de la Juve, des matchs qu'il a pu faire.
Non, mais je remets pas en cause le talent de Dani Alves. Hein, c'est évident, c'est un super joueur. Mais là, on voit que sur les 6 premiers mois qu'il a passé au PSG, il répond pas spécialement présent. Quoi.
Bon, il a fait un gros début de saison. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu dans le dur, mais moi je trouve aussi qu'on est sévère avec lui. Bon, je pense que dans les gros matchs, il sera présent.
C'est le joueur Ligue des Champions.
Ouais, je me fais pas de soucis. Par contre,
il faut mettre Alves et Meunier, quoi.
Voilà. Non, mais c'est compliqué parce que bon, aucun peut jouer du côté gauche. N'est pas Sakai qui veut. Hein. Nous, on a la chance d'avoir un samouraï qui peut jouer même gardien de but.
Ou
Bounassar, mais ouais. Bon, Sakai latéral à gauche, c'est une vraie trouvaille de Rudy Garcia, une de plus. Non, pour être sérieux, moi, si je vois vraiment un point faible à Paris Saint-Germain, là, je suis d'accord avec vous, c'est l'entraîneur. Pour moi, cet entraîneur n'a pas le vécu, n'a pas la crédibilité, n'a pas la stature, n'a pas le charisme pour gérer des grandes vedettes que Paris a dans son effectif, contrairement à d'autres entraîneurs. Bien sûr Guardiola, mais il y a pas que lui. Donc voilà, c'est le prochain chantier de Paris, c'est ça, c'est vraiment prendre un entraîneur. D'ailleurs, j'ai vu que Mancini a fait des appels du pied en disant je veux entraîner Paris.
C'est pas mal, à mon avis,
c'est mieux qu'Emery, mais il faudrait faire un peu plus. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir, il y en a pas 50 000, hein. Tiens, Guardiola, tiens, Mourinho,
Tader Zakarian.
Après, voilà,
Tader Zakarian.
Ouais, c'est ça.
Mais pour moi, voilà, le vrai point faible de Paris, c'est le coach. Parce que d'ailleurs, on le sent bien toutes les fois qu'il est en interview, il pose des questions, c'est vrai, un peu pas sympa des fois. Et il est toujours emmerdé, il sait pas quoi répondre, hein. Il est un peu entre deux feux, il fait surtout attention de pas vexer qui que ce soit. Bon, mais quand tu es entraîneur, quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis, Guardiola, il le dit, Mourinho, il le dit. Bon, voilà. Donc, il manque vraiment ça.
Pascal Duprat, il le dit.
Voilà, en parlant d'info, j'allais y venir. L'info, Julien, qui vient de tomber, là.
Ouais, c'est Pascal Duprat qui est plus entraîneur de Toulouse. Giovannicio a eu raison de Pascal Duprat. Ouais. C'est terrible.
Et ouais.
Le foot est terrible.
On peut lire, hein.
Mais d'ailleurs, s'il nous écoute, Pascal Duprat, je pense qu'il peut envoyer un tweet à Jamie Savolas en disant que, par exemple, Mariano, contre Toulouse, a été beaucoup moins touché que Mbappé par Lopez. Voilà. Donc c'est vrai que moi, si j'étais Pascal Duprat, c'est vrai que j'aurais fait un petit tweet là de suite après le match Lyon-Paris en disant quand on voit Mariano tomber et un penalty et quand on voit Lopez fracasser Mbappé. Après, ça peut se discuter, c'est vrai. Mais bon, là, il y a un vrai contact alors que Mariano, il y a un micro contact.
Mais juste. Pour terminer sur le PSG et le fait que Emery ait un peu peut-être du mal à, on ne sait pas ce qui se passe dans le groupe, on n'y est pas au quotidien, mais sur le fait qu'il ait un peu du mal à gérer le vestiaire, c'est aussi Rabiot quoi. Adrien Rabiot a décidé qu'il voulait pas jouer 6, donc Emery ne le fait pas jouer 6. Et on se prive d'un joueur comme Lo Celso qui est un super joueur, qui est numéro 6 là, mais qui n'a pas du tout les caractéristiques pour jouer numéro 6. Et c'est là qu'on voit qu'un vieillissant Thiago Motta manque à cette équipe. Alors à voir si Lassana Diarra ça va se faire, à voir si dans quel état il va arriver.
Lassana Diarra il a pas joué au foot depuis 2 ans, il va pas se retrouver un CM de finale.
Dans quel état il va arriver, mais
8e contre Real Madrid quoi.
Tu peux même imaginer que Neymar ait choisi de bouder et a décidé de pas se déplacer à Lyon parce qu'il a été sifflé le match d'avant au Parc des Princes. Moi franchement ça me surprenait pas que Neymar était tout à fait apte à jouer ce choc à Lyon, mais comme il a été sifflé, il a décidé je reste au camp des loges, je m'entraîne tranquillement.
Et en plus dimanche soir il y avait la Fashion Week à Paris,
pourquoi pas. Donc moi, je pense honnêtement qu'il est capable, de le faire, parce que il y a un entraîneur qui c'est vrai n'a pas le charisme pour lui expliquer le code de la route.
Il a préféré rester avec Ben Arfa.
Ouais, c'est ça. Paris, on va passer au pronostic avant de continuer à parler de foot. Deux pronostics là, attention. Laurence, tu gagnes les deux pronostics, tu passes devant Patrick.
Mmh. Hein? Aïe.
Que nous, si on gagne les deux pronostics, ça change rien.
Ouais.
On vous rattrape pas.
Alors c'est quoi ?
Deux gros matchs ce week-end. Le 3e contre le 4e Marseille-Monaco. Et le 7e contre le 1er Paris qui reçoit Montpellier.
Aïe.
Et ouais, tu vois là, je vais perdre des points, mais je le sais, mais c'est pas grave. Je vais commencer, par Paris-Montpellier, sachant que Neymar va revenir, hein.
Sachant qu'ils sont vexés de la défaite.
Mbappé
sera là aussi.
Mbappé sera là, donc je vois pas Montpellier gagner. On va dire un match nul alors. Un petit un partout, c'est bien. Allez Patrick, à toi.
Écoute, je vais jouer ton club de cœur et je vais dire 0-0.
Oula!
Match nul aussi, tu dis?
0-0.
Moi, je dis victoire de Paris, 4-0.
Ouais, mais toi, t'as pas de cœur. Vas-y, Julien.
On va dire 3-0 pour Paris.
D'accord, donc ça me rassure. Laurent, il a des sueurs, là. Il entend deux matchs nuls, il a des sueurs.
Ah, il hésite.
Non, j'hésite pas. Enfin, j'hésitais entre 3 et 4-0. Alors là, c'est embêtant parce que.
Il pense à Sio, là.
Pas donner des points à un des deux, là.
C'est quand même le monde à l'envers, ça.
Donc, du coup, je vais dire 5-0 pour le PSG.
Ok. Allez, tu continues. Marseille-Monaco.
Marseille-Monaco, 0-0.
C'est fou. Ça se joue au Vélodrome.
Ça y est. Tout pour les points du prono, quoi. C'est terrible.
0-0.
Ok, Julien.
3-2 pour Monaco.
Ok. Ouais.
Alors, si ça se joue au Vélodrome, je vais dire.
En point ou en
avant. 2-1 pour Marseille.
3-1 pour Marseille.
Bah Patrick, hein, moi je te suis, hein, parce que tu as donné match nul pour le match d'avant. Je dis 3-1 pour Marseille aussi.
Tu suis plus Julien.
Tu peux marquer 2 points là.
Ouais, je peux marquer 2 points.
Tu peux marquer,
ouais,
des points ce week-end.
Au point où on en est, moi je prends des risques.
Tu butes de Sio à la 92e.
Par contre, Patrick, t'as pris le chat noir avec toi là. Je sais pas.
Tu avais une info basket à nous donner, Laurent, il me semble.
Le français Franck Ntilikina est devenu le premier joueur NBA de moins de 19 ans à réussir un triple double.
Il a failli.
Qu'est-ce que c'est ça, un
triple double? Il a failli.
Qu'est-ce que c'est ça?
Il a failli, ouais.
Il a failli.
Qu'est-ce que c'est, ça, un triple double?
Ben, c'est 2 points, 2 rebonds et 2 passes.
Non, c'est pas ça.
C'est dans l'esprit, mais c'est 10 ou plus.
10 ou plus.
10 ouais. points, alors, 10 rebonds ou 10 passes.
Ouais. Là, je crois qu'il était à...
Et le tout en 17 minutes.
Il faut être à 10 unités ou plus dans 3 lignes de stats, en fait.
Ouais, bah, c'était ça.
À quelque chose près.
Voilà, donc là, il était à 11 points, 10 rebonds et 7 passes. Donc on n'était pas loin.
Mais il a encore l'année pour le faire, puisque je crois qu'il est de la fin de l'année, donc voilà, il a encore toute la fin de saison pour réussir ça. Ce petit challenge personnel.
C'est ça, ouais. Sachant que là
son équipe est bien classée là, New York, ou pas
trop.
Non, ils se battent pour être en play-off, mais ben là hier 7 points 3 passes seulement pour le français, compliqué. Et Parker devient remplaçant. Ça y est. Tout change.
Ouais, mais Parker devient vieux aussi.
Il n'était pas arrivé depuis 2010. Ouais.
Il a mis son frère entraîneur de l'ASVEL.
Laurent est deuxième au prono, Parker remplaçant, tout change.
Tout change. Ouais. Où va le monde? All-Star Game aussi, ça y est, on a les noms des 5 joueurs. Avec un changement.
Il y en a combien de Portland?
Il n'y en a pas.
Non, mais là, pas dans les 5 majeurs.
Là, c'est les votes des internautes. D'accord. Pour l'instant. Sachant que Messi a appelé sur sa page perso à voter pour Ginobili, il a eu 81 millions de j'aime sur cette annonce. Et Ginobili a été le deuxième joueur de l'Ouest à récolter le plus de votes derrière LeBron James avec 11 millions de votes. Mais comme ça a changé cette année, il n'est pas dans le 5 majeur. Changement cette année, c'est le capitaine, donc celui qui a le plus de votes, qui va choisir son équipe entre les 5 choisis par les votants et les 5 choisis par l'entraîneur. C'est lui qui va choisir le 5 titulaire. Ce qui veut dire que ça peut créer des problèmes, cher Auré. Par exemple, LeBron James peut éviter de choisir Irving, qui a été choisi par les auditeurs et avec qui il a des relations plutôt tendues.
Oui, parce qu'Irving jouait à Cleveland et il est parti à Boston.
Et ton Camerounais français Joël Embiid a été choisi par les internautes, Patrick.
Oui, j'attends qu'il soit naturalisé et qu'il puisse renforcer cette équipe de France pour qu'on atomise ces Espagnols qui m'énervent au plus haut point en basket.
Ah, toi aussi.
Voilà.
Et Damien Lillard, non, il n'y est pas.
Eh ben, c'est un petit peu l'inconnu entre Damien Lillard et CJ McCollum. Ouais. C'est vrai que l'équipe de Portland a deux très bons joueurs. On ne sait pas trop s'ils vont faire partie du All-Star Game. Ils le mériteraient parce que Portland, on n'en parle pas beaucoup, mais ils font une bonne saison. C'est une équipe dont on ne parle pas, mais ils gagnent quand même pas mal de matchs et ils sont à la lutte pour les playoffs. Et c'est vrai que ces deux-là ont tout le talent pour être au All-Star Game, effectivement. Mais après, est-ce qu'ils vont pas payer?
Est-ce qu'il faut que j'envoie un tweet comme a fait Messi ou?
Ouais, peut-être, ouais. Peut-être.
Maintenant, les votes sont finis. Maintenant, c'est les entraîneurs qui choisissent.
Est-ce qu'ils vont pas payer justement le fait d'être à Portland et d'être dans une équipe qui est pas trop médiatique et qui fait pas trop parler d'elle? C'est fort possible.
Enfin, pas trop médiatique. On en parle jusqu'à Amandon-Lauzère, quand même. Hein.
C'est vrai.
On parle pas toutes les équipes. C'est vrai. T'as une info pour toi, Laurent. Je sais que t'aimes bien ce genre d'info. Joël Embiid. Et il faut savoir que, il y a quelques années, 4-5 ans, il avait essayé de dragouiller la petite chanteuse Rihanna, qui lui avait dit « Tu reviendras me voir quand tu seras All-Star ». Donc, vous imaginez les chaînes de télé américaines. Après un match, il a été questionné sur le sujet pour savoir s'il allait retourner la voir. Il a dit non, c'est passé. J'ai pris un râteau, je ne vais pas en prendre deux. Ouais.
Mais je suis inquiet parce qu'il y a certains joueurs de l'équipe de France qui ont déjà décidé, qui n'ont pas décidé, mais qui ont dit qu'ils n'étaient pas favorables à l'intégration de Embiid en équipe de France.
Notamment Evan Fournier.
Oui.
Moi non plus.
Et Edwin Jackson.
Et pourquoi?
Parce que c'est vrai qu'il y a, beaucoup d'Américains qui prennent des passeports pour renforcer des équipes, en particulier les équipes de l'Est. Et donc c'est vrai que la France a toujours dit que c'était un procédé qui n'était pas normal. Et donc là, pour Fournier, c'est comme si on faisait pareil. Alors que c'est quand même un peu différent parce que Embiid a quand même de la famille qui vient en France.
Oui, mais il a jamais vécu en France, il a jamais joué en championnat de France, c'est là le problème.
Ouais, comme, il a pas d'attache.
Comme Ibaka qui a joué pendant 5 ans en Espagne et qui après décide de se faire naturaliser et jouer pour l'Espagne, là Embiid il parle pas français.
Voilà, le discours
au niveau d'éthique que c'est français.
Voilà, le discours de Fournier, c'est quel message on envoie aux joueurs français qui il y en a certains
et
ça fait
plusieurs
années qu'ils font les qualifications, qui s'investissent en équipe de France et là on ferait venir un joueur comme ça et qui crée la place d'un autre qui ça fait plusieurs années s'investit auprès de l'équipe de France, donc c'est peut-être un mauvais message pour les
Evan
joueurs.
Fournier, c'est un joueur.
Oui.
Donc on s'en fout de son mot à dire. En fait, c'est la Fédé qui compte, voilà. C'est l'entraîneur quoi.
Non mais il y a Rudy Gobert.
Parce que lui,
aussi,
il a pas mis de perdre sa place, c'est tout quoi.
Alors c'est étonnant parce que Rudy Gobert aussi a dit qu'il était pas tellement favorable. Alors que si tu mettais dans la même raquette Rudy Gobert et Embiid, je peux te.
Ouais, mais bon, vu qu'il y a que 5 places sur un terrain de basket, les mecs ils tiennent à leur place, alors ils disent ça quoi.
Je sais pas.
Peut-être.
Ouais.
Ben oui, c'est sûr. C'est l'entraîneur qu'il faudrait demander.
Julien, qu'est-ce que t'en penses ?
Que ça va faire un bide.
Ouais.
Voilà. Oh !
Très beau ça.
Facile.
Qu'est-ce qui s'est passé en tennis là, Julien, toi qui suis et qui est le seul de nous à suivre
il fait
tennis.
Chaud. Il fait chaud, il fait très
chaud. Non, mais il y a eu deux surprises.
Il y a rien qui change quoi. Il y a des surprises.
Des petites surprises là dans la.
Il y a plus de Français.
C'est pas une surprise.
Ce qu'ils appellent la night session.
Gasquet a perdu contre Federer. Quelle surprise.
Djokovic et Tim qui ont perdu ce matin contre.
C'est Vincent, tu veux dire.
Vincent
Tim.
Donc Dominique Tim.
Et en plus Vincent, c'est sa fête aujourd'hui parce que c'est la Saint-Vincent.
Ah, ben tu vois.
Qui a perdu contre le bien nommé Tennis Sengrand. Ça s'invente pas, son prénom c'est Tennis. Il est issu des qualifications, 26 ans. C'est la première fois de sa carrière qu'il joue un match en 5-7. Et il sort la tête de série numéro 5, Dominique Tim. Et juste après, Djokovic qui a perdu en 3-7 contre le Coréen Chung Yong.
Avec beaucoup de pétage de plomb de la part des joueurs français notamment.
Ah bon. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tsonga qui s'est pris la tête à la moitié du public. Oui. Caroline Garcia aussi.
Ah, je peux. Voilà.
Ouais, Tsonga, sur un changement de côté là, il s'est pris la tête avec l'arbitre et il a dit qui vienne ici sur le terrain, je l'attends sur le court. C'est un peu chaud quoi.
L'arbitre
un spectateur.
Ah, un spectateur.
On parle d'un spectateur. C'était un peu chaud ouais.
Eh ben.
Tout ça pour être rebelle, les mecs.
Il jouait contre un Australien, Tsonga.
Ah,
Kyrgios. Kyrgios.
Il a perdu ?
Oui.
Ah, Kyrgios, c'est celui qui est un peu fou, non ?
Oui,
c'est ça.
Ah, c'est ça. Ouais. Ah, je suis quand même.
Okay. Il n'y a plus de Français, ouais.
Tsonga perdu, ça va souvent ensemble. Hein. Surtout quand ça arrive vers la deuxième semaine.
Proche de la deuxième semaine, souvent.
C'est ça, c'est compliqué.
Garcia qui a perdu cette nuit, fini. Ni homme, ni femme.
C'était notre seul espoir, Garcia.
Un petit peu, ouais.
Ouais.
Puisque Mladenovic est en train d'écrire l'histoire. 15 défaites d'affilée. Ça fait 15 tournois qu'elle passe pas le premier tour.
Pas mal ça.
Donc c'est solide.
Ouais. Il y a, en parlant de public, ils ont pris en grippe une joueuse qui crie un peu fort, non ? J'ai vu un article passer sur ça.
Ah, j'ai pas fait attention à cette info.
Tu l'as vu où ?
C'était pas de l'année dernière.
Regardé les mêmes.
C'était pas de l'année dernière.
Les mêmes sites, je sais pas.
Tu l'as vu sur public ou
sur Cité du Sport ?
Cité du Sport, est-ce que c'était du tennis ?
Ah bon.
Ok.
Est-ce que tu t'es pas trompé de chaîne ?
Peut-être.
Est-ce que tu n'as pas été obligé de mettre un code secret pour accéder à...
C'est bizarre pour avoir des tennis, pour mettre un code secret.
Code parental, ouais.
Voilà,
j'ai
code
pas
parental.
Compris, il me demandait le code parental.
Et voilà,
hein.
Donc, pour regarder pas de raquette. 21, quoi. Ouais.
Ok, vous voulez parler d'un dernier événement sportif de cette semaine ?
Moi, juste un petit mot, un clin d'œil sympa, là, la FL qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, fête les 5 ans du match contre le Havre.
Ah, j'ai vu ça, oui.
Ça fait déjà 5 ans que la FL a fait ce super parcours en Coupe de France. Et si j'ai bien compris, un média espagnol qui s'était déplacé à Mende va faire une petite vidéo souvenir de ça. Ça devrait sortir dans la journée.
Ah ben je l'ai vu.
C'était juste un teasing, non, de 20 secondes.
Oui.
Ouais, mais je crois qu'il va y
pas le... il va y avoir.
Est-ce que tu as dû rentrer un code parental
Il me semble, de ce que j'ai compris, il me semble qu'il va y avoir une vidéo un peu plus longue que ça. Je crois.
Oui.
Vérifier.
Tu as raison.
Voilà, donc déjà 5 ans, ouais.
Oui, sinon on peut parler de la Coupe d'Europe de rugby qui a rendu son verdict ce week-end. On connaît les affiches des quarts de finale. Oui. Donc on a 4 clubs français qualifiés sur 8. Donc c'est pas mal. Et on sait déjà qu'on aura un club en demi-finale puisqu'il y a une affiche franco-française entre Clermont et le Racing.
D'accord.
Voilà, donc belle performance du rugby de club français.
Tu as en tête les autres matchs des clubs français?
Ensuite, il y a La Rochelle qui va se déplacer à Clanecly.
Au Pays de Galles.
Et Toulon qui va se déplacer au Munster.
Et c'est que sur un match?
Ouais.
Ouais.
Ah. Et le dernier match, c'est Leinster contre les Saracens.
Et c'est une finale à Manleur, celui-là, par contre. Oui.
Mmh. Ok, d'accord. Ouais. Super ça.
La Rochelle pour leur première année de Coupe d'Europe.
La Rochelle
d'Europe,
qui écrit l'histoire en quart de finale. Dans le bon sens, c'est ouais. ça exactement. Ouais. Qui, pour sa première participation, sort des poules et arrive en quart de finale, ce qui n'était jamais arrivé.
Mmh. Donc, eh bon. Ben, bravo.
Et puis il tombe sur Clanecly. C'est tout à fait jouable.
On va voir ça, on va suivre ça. Merci les gars, on se retrouve lundi prochain. On va essayer d'avoir le coach de la FL avec nous dans la prochaine émission. On va le joindre pour faire un peu le point sur ce début de saison, même si la FL joue pas ce week-end. On va profiter quand même s'il peut venir de sa présence pour parler un peu de ce championnat relevé et de ce bon première partie de parcours de la FL. Ok les gars.
Allez,
ok,
ça marche.
Allez, bon lundi, bonne semaine. Ciao.
Salut, allez, au revoir.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tapis apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.